Mon amie syrienne, elle s'appelle Ant, m'a raconté d'où elle vient. Un récit en 4 épisodes. Quatrième partie, l'exil. La première fois qu'elle découvre Paris, elle est touriste. Elle en rêvait depuis tellement longtemps, comme tout le monde, dit-elle, comme tous ceux qui vivent dans des pays au régime autoritaire. Pour elle, l'Europe, c'est la civilisation, la culture, l'art. L'Europe, c'est la liberté. Et Paris est le premier, le véritable rêve. À l'école, elle avait étudié la Révolution française et beaucoup lu sur les penseurs des Lumières. Elle est curieuse de voir comment se traduisent ces principes d'humanisme dans la vie d'aujourd'hui. Curieuse de voir les traces de la Révolution française sur les Français. Curieuse de voir à quoi ressemblent des femmes et des hommes libres vivant dans un pays démocratique. Quand elle découvre Paris, elle est frappée par le mélange incroyable de gens différents, ethniquement, mais aussi dans leur façon de s'habiller. Le plus remarquable étant que personne n'y porte attention. Tout le monde est libre d'être comme il est. Elle regarde avidement les autres alors que personne ne la regarde. Elle adore cette cohabitation de gens de toutes les couleurs et réalise à quel point la Syrie manque de cette diversité. Elle remarque que les gens se parlent sans se connaître, dans le métro ou au café, qu'ils n'ont pas peur d'être abordés par un étranger, comme en Syrie. À Paris, il lui est arrivé qu'en l'entendant parler arabe, quelqu'un lui demande « D'où venez-vous ?» Elle voit que dans les files d'attente, personne ne cherche à passer devant les autres, comme en Syrie, si tu es le fils de machin. Elle découvre aussi la misère au pied des boutiques de luxe, tous ces gens dormant dans la rue, à même le trottoir. Elle parcourt les grandes avenues plantées d'arbres, les jardins et les parcs, les grandes places, époustouflée par la dimension de ces espaces publics à laquelle elle n'est pas habituée. C'est une touriste sérieuse, elle veut tout voir, l'opéra, la tour Eiffel, Notre-Dame, la Bastille, les musées. Elle aime regarder la Seine vue du pont Alexandre III. Elle aime la mairie du 1er arrondissement. Elle ne peut pas terminer la visite du château de Versailles, trop grand, mais elle adore se promener dans les jardins. Elle est perplexe devant la taille du Louvre. Comment peut-on visiter un musée si grand qu'on y accède par 4 bouches de métro? En se promenant dans le cimetière du Père Lachaise, elle est saisie d'émotion devant le mur des fédérés. Aujourd'hui, elle est de retour en France, non plus avec le statut de touriste, mais avec celui de réfugié politique. Entre ces deux voyages, 10 ans au passé, 10 ans à suffoquer, à écraser ses sentiments, à écraser ses nerfs, pour ne pas être de nouveau emprisonnée. Et puis est arrivée cette chose impensable, le voile de l'enfer qui se soulève pour faire apparaître le ciel de la liberté, voile aussitôt rabattu sur les pires ténèbres, population affamée, bombardée, gazée, torturée, écoles, hôpitaux, maisons, mosquées, villes entières anéanties. Que faire dans ce pays où chaque porte s'ouvre sur un mur? Ant n'en peut plus, elle n'en peut plus des pressions qu'elle subit au travail en tant qu'ancienne prisonnière politique. Elle demande une mise à la retraite anticipée à laquelle elle a droit, ayant travaillé 35 ans comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. C'est alors que commence la persécution administrative du régime, qui exige qu'elle rembourse 2 millions de livres syriennes, correspondant à la valeur des produits phytosanitaires dont elle a la charge en tant qu'ingénieur agronome. Or, ces produits sont stockés dans une banlieue, route Al-Charrier, qui est assiégée et bombardée par le régime. Son accès est donc rendu impossible par l'État, qui dans le même temps exige de Anne qu'elle veille sur ses produits. Une situation kafkaïenne, à laquelle un grand nombre de Syriens sont confrontés quand ils ont affaire à l'État. Une autre persécution subie est celle à laquelle se livrent les services de renseignement. Ant et son mari, Raed, tous deux anciens prisonniers politiques, sont régulièrement convoqués, intimidés, humiliés par ces services. Le frère de Ant est régulièrement arrêté et détenu par la police politique. Son jeune fils de 22 ans a été arrêté en 2012. Depuis, personne n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Et puis un jour, la fille de Raed, âgée de 16 ans, est enlevée et séquestrée par une milice. Elle arrive à s'en sortir miraculeusement, mais Raed comprend que le régime le vise en s'attaquant à ses enfants. Il décide de les mettre à l'abri en les envoyant rapidement en France, puis de les rejoindre dès qu'il aura l'autorisation de sortir du pays. Hent n'est pas prête à partir à ce moment-là. Elle veut rester à Damas. Elle veut continuer à participer aux actions solidaires pour ceux qui subissent de plein fouet la répression. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la semaine précédant le départ de Raed, elle n'arrive pas à prendre la décision. Quand la date du départ est fixée, elle n'arrive plus à dormir. Le téléphone n'arrête pas de sonner, tout le monde veut prendre rendez-vous pour lui dire adieu. Les amis passent la nuit chez elle, ils lui apportent de petits souvenirs. Les frères et les sœurs dorment chez elle, ses neveux et ses nièces dorment même dans son lit. On aurait dit que les yeux sont collés sur elle, les regards ne la quittent pas, juste un dialogue de regards. Impossible de se dire qu'on ne se reverra plus.
Les derniers moments ont été un déchirement. Une personne coupée de sa famille, de ses frères et sœurs, et des gens sortis dans la rue pour dire non. Quand le mouvement a commencé, il y avait ceux qui étaient arrêtés, ceux qui étaient en train de mourir, ceux qui n'avaient plus rien à manger. Donc, il fallait agir, mener des actions solidaires. J'ai compris qu'en partant, tous ces liens allaient casser, comme un collier de perles. Le jour de départ est inoubliable. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit. Tout le monde est parti. Personne n'a dit un mot. Il y avait juste le regard, les yeux. J'entends encore le dernier claquement de la porte. J'ai encore le son dans mes oreilles.
La pluie s'est mise à tomber le jour du départ, à Damas. La pluie cingle les carreaux, violente comme des éclats de métal. Elle glisse des toits, gifle le bitume du trottoir, se mêle aux ruisseaux qui dévalent les pentes et enfin elle se jette dans la rue. La rue devient un torrent qui rugit. Dans le taxi jusqu'à la frontière, les yeux collés à la vitre ne voient rien. Un rideau opaque escamote les banlieues, les champs, les villages. Aucun son de l'extérieur ne lui parvient, hormis ceux des giclées d'eau sur la voiture et le grincement des essuie-glaces. Le pays qu'elle traverse est gommé par la pluie. Au poste frontière, elle a marché vers le bâtiment de contrôle des passeports. À peine 100 mètres, mais ses bottines sont trempées et les roues des valises désaxées d'avoir roulé dans les flaques. Le douanier syrien lève les yeux sur elle, puis les baisse sur la photo de son passeport, puis les relève à nouveau. Ce n'est pas un regard, il ne cherche pas ses yeux, non. Il traverse la chair de son visage, il l'efface, puis il claque sèchement le coup de tampon de sortie. Elle flageole en avançant vers la douane libanaise. Ils sont dans son dos, elle les sent qu'il la retienne encore, toutes ses fibres étirées, sa famille, ses amis, son peuple. Elle avance jusqu'à la guérite sans se retourner, le dos raide et les bras tiraillés par les valises. Elle sait qu'ici commence l'exil. À Beyrouth, à l'hôtel, la pluie bat les carreaux, les mêmes rigoles soignent des murs et coulent dans la rue. Les mêmes odeurs de coriandre fraîche, de piment, de kébé arrivent jusque dans sa chambre. Elle sait qu'ici commence l'oubli. L'oubli des gorges d'où sortent les cris entremêlés au rire de ceux qui en jouissent. L'oubli des prières montées si haut qu'elles retombent éparpillées en marmonnements de cils. L'oubli de l'effritement du jour, épuisé de lumière. Le téléphone sonne, elle ne sait pas où elle est. Elle se réveille d'une nuit où elle n'a pas dormi, entend la voix de sa nièce et comprend d'un coup. Elle est à Paris, dans un centre d'hébergement. Sa sœur est à l'hôpital en Allemagne. Elle est très malade. Elle veut voir Hent absolument. « Tu viens avec moi, je pars dans 2 jours. Essaye d'obtenir un laissez-passer, » lui dit sa nièce. Les papiers n'arrivent pas, la nièce part. Le lendemain, le téléphone sonne, c'est fini. Elle n'a pas revu son visage, elle ne l'a pas caressé, elle ne l'a pas tenu dans ses bras. Il lui a été interdit de lui donner le refuge de son amour, parce qu'elle est une réfugiée. Trop tard, seulement un jour trop tard, mais elle est arrivée auprès de sa sœur. Toujours sans papier, elle a sauté dans un train jusqu'à Strasbourg, puis dans la voiture du mari de sa nièce. Maintenant, elle pleure devant les yeux fermés de sa sœur, devant son visage sculpté par la maladie. Juste la peau qui enveloppe le front, les pommettes, le menton.
صحيت الصبح من السهرة لقيت الليل سرق.
Depuis son départ de Syrie, elle a passé 10 jours à Beyrouth en attente du visa pour la France, puis 10 jours à Paris dans un centre d'hébergement. Et pour finir, elle est arrivée avec Raed et les 2 enfants dans un centre d'hébergement de la banlieue lyonnaise. Alors qu'elle avait adoré la France en y étant touriste, alors qu'elle avait rêvé d'y vivre à sa sortie de prison, c'est un autre pays qu'elle découvre en y arrivant comme réfugiée. Elle se sent humiliée de faire la file d'attente pendant des heures pour obtenir des papiers. Elle se sent une citoyenne de seconde zone. Tout lui est imposé. La ville où elle doit vivre, le quartier où elle doit résider, l'appartement où elle doit habiter. Elle découvre qu'elle a perdu la liberté de choisir le lieu où dorénavant se déroulera sa vie. Elle veut travailler comme elle l'a toujours fait, mais comment trouver du travail alors qu'elle n'a pas la maîtrise de la langue et que ses diplômes ne sont pas reconnus ?
صحيت الصبح من السهرة لقيت الليل سرق وشي صحيت الصبح من السهرة لقيت الليل سرق وشي صرخت غدوني يا صحابي وهدوني من السهرة صرخت غدوني
Elle ne se reconnaît plus, elle qui aime les découvertes, l'aventure, l'inconnu, qui a toujours combattu, y compris ses états dépressifs. Là, elle n'y arrive pas. Le choc est trop violent. Elle fait pourtant tout ce qu'il faut pour s'intégrer. Elle participe aux activités du centre social, parcourt la ville en long, en large et en travers, saisit toutes les occasions pour entrer en relation avec les gens, pour se faire des amis. Elle se débat. Elle fait des efforts colossaux pour s'intégrer alors que sa condition d'étrangère la suit partout. Un handicap qui pèse dans chacune de ses démarches, un empêchement à vivre selon sa nature. Elle se débat. Elle lutte contre l'angoisse qui ne la quitte jamais. Ont-ils de quoi se chauffer cet hiver ? Son frère peut-il se rendre à son travail ? Y a-t-il de l'électricité pour la machine respiratoire de son neveu handicapé ? Ont-ils survécu au dernier bombardement ? Alors elle les appelle avec WhatsApp. Elle s'affole en entendant au téléphone le bruit d'une explosion. Mais eux n'entendent même plus. Ça fait partie de l'ambiance sonore. Et même ils rigolent, font de l'humour noir. Les Syriens sont très forts pour tourner en dérision ce qui pourrait les anéantir. Elle se dit qu'il vaut peut-être mieux vivre la guerre là-bas, en trouvant des Russes pour manger, boire, se chauffer et surtout ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Toutes leurs ressources sont mobilisées dans la survie. Il n'y a pas d'espace pour l'angoisse de ce qui pourrait arriver. Le pire est là, le pire est déjà advenu. Le pire, c'est son neveu de 22 ans disparu, arrêté par la milice et dont on n'a plus de nouvelles depuis 5 ans. Le pire, c'est son autre neveu de 24 ans, tué dans la Ghouta en mars 2015. Et pourtant, ce sont eux qui sont dans la guerre, qui la réconfortent au téléphone, qui lui disent « Ne t'inquiète pas, on va bien ». Tous ses amis syriens en exil font la même chose qu'elle. Ils regardent les chaînes d'information en continu, suivent sur Internet chacun des événements survenus dans la journée. Ils commentent, analysent, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Ils assistent, impuissants, à l'anéantissement de leur pays. Pourtant, quelque chose lui interdit de baisser les bras. C'est plus fort qu'elle. Il lui faut agir pour soulager cette douleur de la Syrie, pour partager cette douleur face à son peuple en train de mourir. Elle s'engage dans une association, Alwan, qui organise des concerts et des expositions pour recueillir des fonds qui sont envoyés en Syrie pour les enfants. Elle devient aussi l'une des co-auteurs et comédiennes d'une pièce de théâtre, X Adra, écrite et jouée par des femmes syriennes qui ont été emprisonnées.
بذكر وقت كنت بالسجن لخفف عني السجن كنت دائما بالليل وقت قبل ما انام قول لحالي هذا آخر يوم إلي بالسجن وقت فيه الصبح قول كمان هذا أول يوم إلي بالسجن هالشي كان يعطيني قوة ويخفف عني الوقت بالسجن وحس إنه يعني طلعتي قريبة وقت وصلت على بلد اللجوء اللي هو فرنسا وصرت لاجئة هون نفس الإحساس انتابني كمان أحيان كتير بقول إنه هذا آخر يوم إلي باللجوء ووقت بفيق الصبح بقول هذا أول يوم إلي باللجوء كمان هالشي بيعطيني قوة وبيخليني حس حالي قريبة من بلدي وإنه ماني مطولة مشان أرجع لبلدي سوريا
On quitte un pays où on avait une indépendance économique. On avait un salaire, une vie normale. On arrive avec le statut de demandeur d'asile. Comment mendiant légitime? Le fantôme de la Syrie me hante. Ma vie est une roue que la Syrie empêche de tourner. Quand je pense à mes proches, c'est-à-dire tout le peuple syrien, ça empêche la roue de tourner. Qu'est-ce que je peux faire? Me résigner, me dire c'est bon, c'est fini, la Syrie est finie. Mais je ne peux pas, je suis dans un tourment permanent. Le fantôme de la Syrie est omniprésent. Je sens que tout vit en moi. Quand je marche dans la rue, je me dis ça, c'est une rue qui ressemble à telle rue en Syrie. Quand je vais au cinéma, ça me rappelle aussi des cinémas en Syrie. Dans la rue, si je vois des enfants avec leur mère, je me dis c'est comme à Babtoum, la vieille ville. Par exemple, quand je suis en voiture sur l'autoroute, je sens que je suis sur une route de voyage entre deux villes en Syrie. Dans la rue, quand je lève la tête pour regarder les balcons, si je vois des plantes, je sens que je suis dans telle rue en Syrie. En fait, je n'ai jamais quitté la Syrie. Je n'ai jamais vécu hors de la Syrie. Tout me rappelle la Syrie. Je ne suis jamais sortie de la Syrie.
اقتربت عودتنا نهار غاب نهار آخر نهار آخر أنا وظل الحور والخريف ويبعد يمعن في الفراغ والغبار غاب نهار آخر نهار آخر ودعني طير وقال إلى بلادي وكبر السؤال وكبر السؤال غاب نهار آخر نهار آخر
Mon amie syrienne, un feuilleton réalisé à partir d'une idée de Franck Millet. Témoignage, Ent Al-Kawaji. Traduction, Lina Ayoubi et Nada Issa. Texte, Pascal Puechavi.
Là où ça allait. Là où ça allait.
Création sonore, montage et mixage, Laurent Grappe. Réalisation, Pascal Puechavi.